Allez, bonsoir messieurs et Erev Tov. Ah, je voudrais tout d'abord qu'on remercie Gabriel Chiche qui nous soutient pour le cours de ce soir, pour la Hatzlacha de toute sa famille. Que le shiur de ce soir donc aille pour beaucoup de réussite, beaucoup de brachot pour toute la famille, Bezrat Hashem. Alors, dans la paracha qu'on a lue ce Shabbat, on nous présente l'épisode de la mort de Sarah. Je vous rappelle que, d'après beaucoup de nos chachamim, en réalité, la mort de Sarah, c'est le prolongement de l'épreuve de la Akedat Yitzhak. C'est la même épreuve, en réalité. C'est la fin de l'épreuve. En quoi c'est la fin de l'épreuve? Nos maîtres nous expliquent. Parce que lorsque Avraham retourne chez lui et qu'il s'aperçoit que Sarah est morte, on nous dit qu'il a eu un débat, une discussion avec son Yetzer Hara. Son Yetzer Hara commençait à lui dire « Mais Avraham, t'es en train de te lamenter maintenant de constater que Sarah est morte. Mais sache que c'est à cause de toi qu'elle est morte. C'est clairement à cause de toi. Tu as pris Yitzhak, son fils aimé. Tu l'as pris, tu l'as monté sur une montagne pour le sacrifier. Quand elle a appris ça, elle en est devenue folle. Elle en est devenue folle, elle en est morte. Donc, si elle est morte, ça ne sert à rien de te lamenter, c'est à cause de toi. Tu es responsable de la mort de ta femme. » Qu'est-ce que cherchait ici le Yetzer Hara à faire? Parce que concrètement, Abraham, il peut très bien dire, bah, de toute façon, Hachem m'a demandé de faire ce que j'ai fait, il n'y a aucun problème. D'accord? Une conséquence d'une réalisation d'une volonté de Dieu, c'est terrible, c'est triste, mais ça va, j'ai fait ce que je devais faire. En réalité, le Yetzer Hara attendait une chose. Il attendait que Abraham regrette son geste. Pas qu'il se dise « Ah, j'aurais pas dû écouter la parole de Dieu, etc. » Pas à ce point-là. Mais juste qu'il se dise, et c'est le terme du Midrash, juste qu'il se dise « Chaval ». Dommage. Ah, dommage. Ça me fait de la peine. D'accord, c'est à cause de ça que, à cause de la Akedat Yitzhak que Sarah est morte. Dommage. Si Abraham avait dit dommage, qu'il avait regretté ne serait-ce qu'une seule petite partie de la Akedat Yitzhak, en réalité, l'épreuve de la Akedat Yitzhak n'aurait pas été validée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque l'on fait une mitzvah, pour que la mitzvah soit complète, soit pleine, il ne faut jamais en arriver à la regretter. Si tu regrettes la mitzvah que tu as réalisée, en réalité, même si la mitzvah elle est faite, mais tu lui as retiré toute son énergie à la mitzvah, tout son potentiel, toute sa façon de s'élever très très haut, si tu regrettes même après coup, rétroactivement, même si tu regrettes ton geste, du coup, ton geste n'est plus aussi beau et aussi pur qu'il n'était avant que tu le regrettes. Et donc on nous dit que la Akedat Yitzhak, elle est tellement importante. Elle est tellement importante dans notre histoire, comme on l'a dit la semaine dernière. Toute l'histoire juive se construit sur la Akedat Yitzhak. Donc le Yetzer Hara, à ce moment-là, il était déchaîné. Il s'est dit, je me suis fait avoir. Moi, tout mon but en tant que Yetzer Hara, c'est de déraciner la force du peuple d'Israël. Et je n'ai pas réussi. Il a été. J'ai tout fait pour empêcher Abraham. Je me suis transformé en fleuve. J'ai tout fait pour l'en empêcher. Je n'ai pas réussi. J'ai une dernière balle. Un dernier truc que je peux faire, c'est faire en sorte de faire regretter à Abraham le fait qu'il soit parti à la Akedat Yitzhak.
C'est la même chose que Yoav.
Oui. Ouais, on trouve aussi ça. Si rétroactivement Abraham avait regretté son geste, toute la force de la Akedat Yitzhak serait disparue. C'est très dur. Pour Abraham, c'est très dur. Mais même pour nous, ça existe en réalité. Nous tous, on a l'occasion de faire une mitzvah. D'accord ? L'exemple que j'ai donné Shabbat, quelqu'un, il a fait Shabbat. Wow, il a respecté Shabbat. C'est la première fois qu'il le fait. Il a cartonné, il a fait son Shabbat. Baruch HaShem. Samedi soir, il allume son téléphone. Message de son collègue ou associé au boulot. Elle dit, mais où t'es un malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de ne pas être là au boulot aujourd'hui? C'était aujourd'hui qu'il fallait être là, on allait signer l'affaire du siècle, t'étais pas là, j'ai rien pu faire, j'ai même pas pu t'appeler, etc. Si le gars, rétroactivement, se dit, zut, j'aurais pas dû faire Shabbat, du coup, ça déracine la force de la mitzvah qu'il a réalisée. C'est un exemple, on peut en avoir 50. T'as été à la choule un matin, t'as été à la choule un soir pour un chiour, etc. Tu rentres, tu dis, ah zut, j'aurais pas dû y aller à cause de ça, machin, j'ai pas pu faire autre chose, etc. On déracine à cause de ça, rétroactivement, la force de la mitzvah que l'on peut faire.
Il y a un délai de prescription quoi.
En réalité, non. Regardez, on a un exemple dans la Gemara que j'ai pas donné Shabbat, qui est encore plus puissant. Vous savez que Lo Aleinu, qu'on ne soit jamais confronté à ça, mais la Gemara nous donne un exemple. Si quelqu'un donne de l'argent à la Tzedaka, mais de manière hyper intéressée, ça veut dire, et c'est l'exemple que donné par le Tosfot, je donne de l'argent de la Tzedaka pour que quelqu'un qui est malade guérisse. D'accord ? Donc clairement, dans ma tête, je prends la pièce, d'accord, je dis, je fais cette mitzvah, par le mérite de cette mitzvah, qu'un tel qui est malade dans mon entourage, qu'il puisse guérir. Tac ! Et il met la pièce. La Gemara nous dit, le Tosfot nous dit, c'est un tzadik gamour ce gars-là. Un tzadik gamour, ça a l'air hyper intéressé, enfin d'accord, c'est pas comme ça qu'on doit faire le mitzvah. Normalement on fait la mitzvah, tac, sans rien demander en contrepartie, etc. La Gemara nous dit, c'est un tzadik gamour. Il n'y a aucun problème. Mais, si jamais Lo Aleinu, cette personne meurt, s'il regrette d'avoir fait la tzedaka en question, en se disant, ah bah finalement, j'ai mis une pièce, mais ça n'a pas servi. D'accord, puisque moi j'ai mis pour qu'il vive, et puis finalement il est mort. Si rétroactivement je regrette, alors là effectivement tu deviens un rachat. Pourquoi? Parce que tu as déraciné la mitzvah. Mais si jamais la personne meurt, et que tu ne dis pas, je regrette d'avoir fait la mitzvah, tu es quand même considéré comme un tzadik gamour. Ça veut dire que l'on peut déraciner une mitzvah rétroactivement. Et c'est ce qu'a voulu faire le Yetzer Hara à ce moment-là. C'est ce qu'il a voulu faire. Finalement, Abraham n'a pas regretté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas trop pleuré. On dit qu'il a à peine pleuré. Vous savez, le petit kaf qui est dans la Torah, il a à peine pleuré. Pour ne pas donner l'impression qu'Abraham est complètement dans le regret, en se disant « Ah, j'aurais pas dû aller sacrifier mon fils, etc. » Il n'a pas voulu me donner des signes de lamentation trop excessive. Et on nous dit qu'il a écrit un hesped, le hesped de Sarah. On le connaît tous, par cœur, puisque le hesped de Sarah, c'est le Eshet Ra'il qu'on chante tous les vendredis soirs. Le texte du Eshet Ra'il, c'est le hesped de Sarah. Non. C'est Shlomo qui l'a récupéré pour le mettre dans son livre de Michelet. C'est dans Michelet, Eshet Ra'il, d'accord. Mais c'est Avraham qui l'a composé. De la même façon qu'on dit pour les Tehillim, que certains Tehillim ont été écrits par Adam Harishon, que certains Tehillim ont été écrits par Korar, par les enfants de Korar, etc. Mais pourtant, l'auteur des Tehillim, c'est David Ameller. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Non, en fait, c'est David Ameller qui les a écrits. Mais en fait, ils ont été rédigés au préalable par tel ou tel personnage. David Ameller les a récupérés. C'est passé de génération en génération. Le Eshet Ra'il, c'est le Hespet de Sarah. Et quand vous regardez le texte du Eshet Ra'il, en fait, c'est un hesped, mais qui n'est pas vraiment un hesped.
C'est un cherchebar.
Razak. Il fait la louange de sa femme, mais à aucun moment, il ne parle de sa mort. Pourquoi? Parce qu'il a peur que s'il parle de sa mort, il va être pris dans la peine, et que s'il est pris dans la peine, peut-être qu'il va avoir l'impression, ou que quelque part, une petite fraction d'accord de seconde, il va regretter d'avoir fait la Akeda Titzrak, et s'il regrette d'avoir fait la Akeda Titzrak, tout le mérite de la Akeda disparaît. Donc on a ce Avraham-là, début de la paracha, il fait l'acquisition de la Marat Amarpela. Et là, nos maîtres nous disent que l'on va pouvoir, grâce à l'épisode de la Maratha Marpella, donc l'achat de Chevron, que l'on va pouvoir, grâce à cet épisode-là, dégager le véritable tempérament d'Abraham Avinu. Et voilà où je veux en venir. Abraham Avinu, on a deux grands épisodes où on voit son tempérament. On a l'épisode où il accueille les trois anges et l'épisode où il fait l'acquisition de la Maratha Marpella. En fait, ce sont deux épisodes de la Torah explicites dans lesquels on voit Abraham discuter, se comporter vis-à-vis de personnes étrangères qui ne sont pas ni le pharaon, ni le roi, mais des gens simples. J'insiste en disant des gens simples, parce que d'après Rashi, quand vous regardez la paracha de Vayera, quand Abraham voit les trois anges, en réalité, à ses yeux, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Donc en réalité, on a deux épisodes. On a l'épisode d'Abraham avec les trois anges, trois personnes, et Abraham avec les fameux Bénéchet et Ephron pour faire l'acquisition de la Maratha Marpella. Et nos maîtres nous demandent et nous invitent à faire, à analyser les comportements d'Abraham dans ces deux situations-là. Et voilà ce qu'on nous dit. Lorsque Abraham est face aux trois hommes qu'il accueille sous sa tente, on nous dit « Kol itnahaguto klapehem haita be'achnara ueshefela » Tout le comportement d'Abraham face à ces trois hommes-là, tout est sous le signe de la soumission, de l'humilité et de l'effacement de son ego. Il est prêt à courir vers eux. Il les accueille sous sa tente. Il leur dit, Adonai, Imna matzati chen be'enecha, mes maîtres, Seigneur. Rashi sur place nous dit, ce mot-là, Adonai, on a une discussion pour savoir, est-ce que c'est un nom chol ou un nom kadosh? On ne sait pas à qui il s'adresse. S'il s'adresse aux hommes en question, ça veut dire que c'est un non-chol, profane, qui veut dire tout simplement mes maîtres, messieurs. Si on dit qu'il s'adresse à Dieu, alors du coup le no Adonai ici, c'est un non-kodesh qui est Akadosh Baruch Hu. Mais dans le texte de la Torah, le mot Adonai qui est employé dans ce pasouk-là, il n'est pas écrit Yudke Vavke. Il est écrit Alef Dalet Nun Yud. Donc, non. Il est au pluriel là-bas, ils sont trois. Donc c'est bien Adonai. Et donc c'est pour ça que Rashi nous dit, je ne sais pas comment il faut l'interpréter ce Adonai. Et Rashi nous dit, première interprétation, eh bien il parle aux trois hommes. Deuxième interprétation, il parle à la Shrina en disant à la Shrina, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, reste de côté, je vais accueillir des gens. D'accord, c'est les deux fameuses interprétations. Mais, en tout cas ce qui est certain, d'après le premier pshat de Rashi, c'est que Abraham ne sait pas que ce sont des anges. Pour preuve, lorsqu'il les accueille sous sa tente. Alors, il leur donne à manger, tu as tout à fait raison, c'est vrai, vous avez raison. Mais il leur lave les pieds. Et Rashi nous dit pourquoi il leur lave les pieds? Parce que Abraham pensait que c'était des bédouins du désert qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, c'est-à-dire que c'est des idolâtres. Donc Abraham, d'après Rashi, ne pense pas que ces trois gens-là sont des anges. Il pense que ce sont des hommes, mais peut-être même des idolâtres, carrément. Mais, comment est-ce qu'il se comporte face à eux? Humilité poussée à l'extrême, alors qu'il est fatigué de sa brit mila, il court devant eux, il les implore de bien vouloir rentrer sous la tente, il leur donne à manger, il court dans tous les sens, il demande à Sarah de courir, il envoie ses enfants pour courir, enfin, d'accord? Il s'efface totalement face aux invités. Et donc on se dit, ça c'est le comportement d'Abraham, voilà le tempérament d'Abraham. La grandeur d'Abraham, c'est quoi? C'est que c'est un homme qui est plein d'humilité, qui est capable de s'effacer, de se mettre plus bas que terre pour accueillir les gens, pour qu'ils se sentent bien chez lui, etc. Voilà le tempérament d'Abraham. Ça, c'est donc Abraham face aux trois personnes. Maintenant, on a une autre référence. Abraham, au début de la paracha qu'on a lu ce Shabbat. quand il fait l'acquisition de la Maratha Marpella. Et là, nos maîtres nous disent la façon dont Abraham se comporte à ce moment-là n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir d'Abraham. Pourquoi ? Il est makpid chez l'Oléashpil et Tatsmolé ou Matam. Il est très rigoureux avec les gens de Bénéchet et il fait tout pour ne pas se rabaisser à leurs yeux. Qu'est-ce qu'on a comme preuve ? Alors, on en a plusieurs. Par exemple, il y a un verset qui nous dit « Vaïdaber el Bénéchet les morts ». Il s'est adressé aux gens de Chet, donc c'est le peuple en question, les Chitéens. Il s'est adressé aux Bénéchet en disant, ok, Chazak. Et nos maîtres nous disent, à chaque fois que dans la Torah, on utilise le verbe Vaïdaber, c'est toujours un langage qui est sec, qui est dur, qui est sévère. Quand au contraire, le verbe qui est utilisé, c'est Vaïomer, Vaïomer, c'est un langage souple. Mais Vaïdaber, c'est un langage caché, un langage dur. Donc quand Abraham s'adresse aux Bénéchet, il met tout de suite, d'accord, la relation qu'il veut entretenir avec eux, il utilise le mot Vaïdaber, il leur parle sévèrement. Ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve, il dit « Ger ve toshav anochi imachem, tenouli achuzat kever ve ekbera metim ilefanaï ». Traduction Guerre Vetoshav. Je suis un étranger et je suis un résident parmi vous et je veux faire l'acquisition de cette grotte pour enterrer ma femme. Rashi pose la question. Les deux mots ne peuvent pas aller ensemble. Si tu te considères comme un étranger, tu ne te considères pas comme un résident, comme un citoyen. Si tu te considères comme un citoyen, tu ne te considères pas comme un étranger. Comment tu peux dire dans la même phrase guerre Vetoshav. Alors, oui, mais là, aujourd'hui, quand tu parles, tu ne racontes pas l'histoire de ce que tu étais. Là, maintenant, quand tu parles, tu es quoi ? Tu es un ger ou tu es un toshav ? Et Rashi s'interroge sur ça. Et il dit comme ça, Rashi. Ger Vetoshav. Im tirtsu areni ger. Si vous acceptez de me donner la Maratha Marpella, je ne m'imposerai pas face à vous. Je continuerai à être considéré comme un étranger. Donc, je vais rester discret. Alors que Dieu m'a promis la terre, etc. Mais si vous me donnez la Maratha Marpella, je ne fais pas de problème, d'accord ? Je reste dans mon coin, tranquille. Vous continuez à vivre ici, il n'y a pas de souci. Mais si vous refusez de me donner la Maratha Marpella, je vous rappelle que je suis Toshav. Je suis Toshav, Dieu m'a promis cette terre-là, cette terre m'appartient. Et il dit, « Ve etelena minadin ». Et s'il le faut, je prendrai cette terre de force. Pourquoi ? Parce que c'est le din. C'est la justice. Dieu m'a promis cette terre-là. Dieu me garantit d'avoir cette terre-là. Donc je suis un toshav. Je peux récupérer cette terre immédiatement pour enterrer ma femme. On voit dans toute cette discussion que Abraham, face au Bénéchet, est un homme qui ne se laisse pas marcher dessus, qui ne se laisse pas écraser, qui s'impose, qui ordonne d'avoir la terre, etc. Même s'il est prêt à payer, hein, ce n'est pas le problème. Mais il est hors de question que vous me la refusiez, cette terre-là. Hors de question. Et même encore une dernière preuve pour montrer le degré, c'est que non seulement Abraham s'impose, mais en réalité, il en impose tellement que les gens de Chet, les Bénéchet, c'est eux qui lui donnent du kavod. C'est eux qui lui disent « Nessi Elohim atab etochenu, tu es un prince parmi nous, tu es un maître parmi nous. » C'est-à-dire qu'il s'est tellement imposé que naturellement, les Bénéchet lui renvoient directement le degré de kavod qu'il demande. Et on a encore un autre exemple qui est encore apporté par Rashi. Regardez ce que nous dit Rashi. Le Éphron en question. Éphron, donc, c'est le propriétaire de la Maratha Marpella, d'accord ? C'est lui le propriétaire, ouais. C'est lui le maître du terrain. Qui est cet homme ? C'est un homme important ? C'est un homme pas important ? C'est un... Rashi nous dit, écoutez bien, « Minuhu shoter alehem, mi penechashivuto shel Avraham. Éphron, en réalité, c'est un terrien parmi les terriens, d'accord ? Il est sans la moindre importance. De quoi ? Il est propriétaire d'une grotte. Il n'y a rien dans cette grotte. C'est un truc qui est rocailleux. Tout son territoire est rocailleux. On n'est pas foutu de planter quoi que ce soit là-dedans. D'accord ? Déjà, la terre de Hébron est connue déjà pour ça depuis longtemps. Mais là, Marat Amarpella, c'est rien. C'est une grotte. Et c'est lui, par chance, c'est lui le propriétaire de la grotte. Mais il n'est pas fortuné, cet homme-là. Il n'est pas important. Il n'a rien. Il n'a rien. Il a juste le propriétaire de cette terre-là, mais qui est complètement dégueulasse. Il n'y a rien qu'on peut faire là-dessus. L'Omet nous dit, c'était monsieur personne. Et quand les habitants de Chet ont entendu que Avraham voulait lui parler, ils l'ont immédiatement nommé comme étant Shoter Alehem, un titre, ils lui ont donné un titre. D'accord, le titre qu'ils lui ont donné, c'était ministre des Shoter, il était policier, d'accord, ils l'ont mis ministre de l'Intérieur de la région. OK ? Mais pourquoi ils ont fait ça ? Et on nous dit, ils ont tellement ressenti le poids d'Avraham, qui ne veut absolument pas s'effacer, ils ont tellement ressenti la personnalité d'Avraham, qu'ils se sont dit, il n'est pas convenable pour un homme comme Avraham de parler à Éphron qui n'a aucun titre. Pour le kavod d'Avraham, disent-ils, pour le kavod d'Avraham, nous devons absolument donner un titre à Éphron pour que Avraham puisse s'adresser à lui. Sinon, ça ne serait pas convenable pour Avraham. Exactement. On voit quoi ici ? Que Avraham, non seulement il est dur avec eux, mais en fait, il se présente, vous savez, des choses qu'on ressent, même avant même qu'il ouvre la bouche, quoi. Il ne dit pas « je veux m'imposer », etc. Mais il vient, et on le sent dans sa façon de se tenir, dans sa façon de parler, que « waouh, il ne faut pas rigoler là ». Là, on ne peut pas rigoler avec Avraham. D'accord ? Il s'impose, on le ressent, et donc nous, on lui donne des marques de kavod quand on lui parle, et la personne qu'il a bien voulu convoquer, eh bien, on va lui donner un titre juste pour cette occasion-là, pour que ça soit un homme important. Alors du coup, nos chachamim se posent la question. Mais c'est quoi le tempérament d'Abraham ? Normalement, le tempérament d'Abraham, c'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est le fait de s'effacer face aux autres. On en a eu une preuve avec les trois personnes qu'il a accueillies sous sa tente. Alors, on a deux personnalités différentes. On a des fois un Avraham qui est souple, qui est dans le chesed, dans la gentillesse, dans l'humilité. Et de l'autre côté, tu as un Avraham qui est dur, qui s'impose, qui veut un titre, qui ne parle pas à n'importe qui, etc. Attends, mais c'est quoi le vrai tempérament d'Avraham ? Quelle est la nature profonde d'Avraham ? Et c'est nos Chachamim qui posent la question. Et la réponse est proposée par les maîtres du Moussard. Aujourd'hui, c'est une leçon de Moussard. Vous savez, on parle souvent des midot dans la Torah. Les midot, c'est les tempéraments, le trait de caractère de chacun d'entre nous. Et des fois, on se pose la question, quand on est face à quelqu'un, on se pose la question de savoir quelle est la mida de la personne qui est face à moi. Quel est son tempérament, sa nature ? Quelle est sa nature ? Alors, on le regarde vivre, un jour, deux jours, un mois, trois mois, 10 ans, tu le regardes vivre. Et puis, quand tu le connais bien, tu te dis, voilà, je suis capable de dégager son trait de caractère, son tempérament. Et on nous donne un exemple qui est le plus classique. Quand tu es face à quelqu'un qui ne s'énerve jamais, ça fait 10 ans que tu vis à côté de lui, tu ne l'as jamais vu se mettre en colère. Rien. Alors tu te dis, eh bien, son tempérament, c'est que c'est un calme. C'est ça, Samida. Eh bien, nos maîtres nous disent que c'est une erreur. Ce n'est pas parce que je vois quelqu'un qui est tout le temps calme que c'est son tempérament. pourtant, ça ressemble à ça. S'il est tout le temps calme, c'est Samida. Voilà, c'est Samida. Alors, en fait, on nous explique qu'on fait une grande erreur dans la définition des Midot. Une Mida, ce n'est pas notre nature. Parce que si c'est notre nature, on n'a aucun mérite. HaKadosh Baruch Hu, il nous a tous créés avec une nature différente. Mais la façon dont Dieu nous a créés ne dépend absolument pas de nous, ni de nos efforts, ni de notre travail, ni de notre investissement dans notre quotidien, etc. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Et nos maîtres comparent ça à la taille de quelqu'un. Si quelqu'un est grand, eh bien, c'est que bah, il est grand, point. Il n'a rien fait de spécial pour être grand. Dieu a fait en sorte que il est grand. Un autre, il est costaud, un autre, il n'est pas costaud. Chacun est comme Dieu l'a créé. Au niveau des tempéraments des individus, il y a des tempéraments qui ne sont pas considérés comme des midot, mais qui sont tout simplement la nature de la personne. Ça veut dire que Dieu l'a fait calme. Dieu l'a fait de telle ou telle façon, même dans son tempérament. Mais le travail des midot, comme le disent nos maîtres, c'est un travail. Ce qu'on appelle les midot, c'est un trait de caractère que j'ai travaillé pour en faire l'acquisition. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Quelque chose qui est naturel n'a aucune sorte de mérite. Il faut que je fasse l'acquisition d'une mida. Et comment est-ce que je sais si j'ai fait l'acquisition de la mida et que ce n'est pas ma nature, parce que si c'est ma nature, du coup, j'ai aucun mérite? Eh bien, il faut être en mesure, dans certaines situations, d'avoir le comportement inverse de ce que tu montres le reste du temps. Ça veut dire que si quelqu'un est tout le temps calme, tout le temps, mais attends, mais il y a des moments où il faut s'imposer, il y a des moments où il ne faut pas rester calme, il y a des moments où il faut se mettre en colère. Si tu ne sais pas le faire et que tu ne le montres pas quand il faut le faire, c'est qu'en réalité, quand je te vois calme, c'est pas parce que tu as travaillé sur toi que tu es calme, c'est parce que c'est ta nature. Mais ça, c'est pas un travail sur les midotes. Pour savoir si quelqu'un a travaillé sur ses midotes, je dois voir que dans certaines occasions, il a la mida opposée. Ah, il sait se mettre en colère. Ah, si il sait se mettre en colère, c'est qu'en réalité, quand je le vois calme le reste du temps, c'est qu'en fait, il se travaille. Mais si, lorsqu'il y a une situation délicate, je vois qu'il ne se met même pas en colère, alors qu'il devrait, parce que là, il faut intervenir, il faut agir, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une mida dont il a fait l'acquisition. Avraham, on pourrait se dire, Avraham, ok, c'est qui Avraham? C'est un homme qui n'a aucun caractère. Il est humble. Il n'a pas d'ego, il s'efface complètement. Et donc c'est sa nature, il est né comme ça. Qu'est-ce qui me fait comprendre qu'Avraham a travaillé sur ses midotes? C'est qu'il y a des moments où il s'impose. Il y a des moments où il ne se laisse surtout pas marcher dessus, où il ne s'efface pas, où au contraire il va s'imposer, il va exiger des choses. C'est dans les moments où justement son caractère différent à ce qu'on voit habituellement, prend le dessus, que je peux me dire, ah, tu vois, Avraham, il sait se mettre en colère. Mais quand il ne se met pas en colère le reste du temps et qu'il travaille son humilité, c'est qu'en réalité, il se travaille pour avoir ce niveau-là. Mais que ce n'est pas naturel. Et donc la grande leçon, en fait, c'est que quand dans le livre de Moussar, et on a tous lu des livres de Moussar, on nous dit, voilà, il faut l'humilité, la simplicité, etc., etc. Et des fois, on lit ça et on se dit, ah, mais moi, ça me convient. D'accord? Parce que je suis comme ça. En fait, ça, c'est pas un travail sur ses midotes. Le « je suis comme ça », c'est très bien. OK, on part tous avec des billes différentes entre les mains. OK. Mais quand on me dit que je dois travailler sur mes midot, c'est justement lorsque je sens en moi que j'ai la mida inverse. Quand je lis un chapitre entier où on me dit de travailler sur le fait d'être calme, de ne pas s'énerver, etc., ce chapitre-là doit m'intéresser en particulier lorsque je sais qu'en moi, je suis colérique. Ah, alors du coup, je m'intéresse à ce chapitre avec beaucoup plus d'attention. Mais si ma nature, c'est de ne jamais me mettre en colère, quand je lis ce chapitre, je ne dois pas me dire « Waouh, génial, j'ai déjà une mida dont j'ai fait l'acquisition. » En fait, pas du tout. Cette mida-là, tu n'en as pas fait l'acquisition, c'est ta nature. Donc, va chercher les autres chapitres qui te concernent. Et ça, en réalité, c'est un très grand chidouche. C'est un très grand chidouche. Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut montrer quelque chose qui va à l'encontre de la mida que j'ai travaillée. Pas n'importe quand, pas le montrer pour le montrer. Le montrer parce qu'il y a toujours des moments dans notre vie où on a besoin d'avoir la mida opposée de celle qui est recherchée par la Torah. Toujours. On demande de ne pas se mettre en colère. Ok, très bien. Mais quand c'est pour défendre la Torah, il faut se mettre en colère. On me demande d'être humble, ok ? D'être discret, ok ? Mais est-ce qu'à cause de ça, je dois avoir de la honte de faire une mitzvah quand je suis en groupe avec des amis parce qu'ils vont me dire « Ah ouais, regarde ce que tu es en train de faire, etc. » « Ah ouais, mais moi, ma nature, c'est d'être humble, d'accord ? C'est pas de me montrer, je reste dans mon coin. » Oui, d'accord, mais si à cause de ça, tu fais pas les mitzvot, alors du coup, c'est pas ce qu'on demande. Il faut que tu t'imposes. Il y a des moments où il faut s'imposer. Abraham, ici, la Marat HaMarpella, il fallait en faire l'acquisition. C'était hors de question de se dire « Non, mais moi, ma nature, c'est d'être gentil avec les gens, de m'écraser, etc. Donc, s'ils ne veulent pas me la vendre, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave, je vais enterrer ma femme ailleurs. » Non, la Marat HaMarpella devait faire partie de l'acquisition du peuple d'Israël. Chazak, il avait vu Adam Arisha, etc. Donc, il fallait que ça soit une acquisition faite par Abraham. Il le fallait. Donc, il y a des moments où tu t'imposes. Mais c'est justement parce qu'on voit qu'Abraham sait s'imposer que l'on peut dire que quand Abraham est humble, ce n'est pas sa nature, mais qu'au contraire, il a travaillé cette mida-là. C'est ça la grandeur d'une mida. Et en fait, ça prend un peu le contre-pied de tout ce qu'on pense jusqu'à présent sur les midot. Parce que c'est vrai qu'on doit partir avec notre nature et se dire quelles sont mes qualités que j'ai déjà en moi. Et à partir de ces qualités-là, je continue à développer, etc. Alors oui, bien évidemment, il faut être conscient de nos qualités innées. Mais en fait, les midot, ce n'est pas quelque chose d'inné. Les midot, c'est une acquisition. Je dois faire l'acquisition des midot. Ce qui est inné, c'est un cadeau. Ok, je le prends. Ça m'aide. Génial. Des fois, c'est un cadeau, des fois, c'est un poison. Mais en tout cas, je dois le travailler. C'est inné. Mais ce que je dois travailler, c'est ça. La véritable mida. C'est sur ça que j'ai un mérite. C'est sur ça qu'on me demande dans les livres de Moussard de travailler. Sur ce qui n'est pas évident. Parce que si c'est évident, il n'y a aucun effort à faire. Or, HaKadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah pour faire des efforts, pour s'affiner. Donc si moi je reste comme je suis en me disant, tiens, c'est déjà bien, je suis humble, naturellement, je suis comme ça, d'accord, je suis discret, etc. D'accord, c'est ma nature. Ouais, d'accord, mais ça, ce n'est pas une acquisition. Ça, c'est quelque chose qui est inné. Et donc, en fait, ce qu'on retient de là, c'est qu'en fait, on doit toujours se poser la question, au moment de tel ou tel événement, de savoir et de se demander comment je dois réagir maintenant. Si maintenant, la qualité que je dois mettre en avant, c'est l'humilité, ok, je suis humble. Si maintenant, la qualité que je dois mettre en avant, c'est au contraire d'être rigoureux, d'être dur, de s'imposer parce que le contexte fait que je dois m'imposer maintenant, alors, je dois répondre à cette question, toujours, comment, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant ? S'il attend que je sois humble, alors je suis humble. S'il attend que je m'impose, alors je dois m'imposer. Et donc, en fait, ce n'est pas simplement se contenter de notre nature, mais c'est essayer d'aller un peu plus loin que cela et d'avoir une vision beaucoup plus analytique des situations en se disant, il faut absolument avoir la bonne mida au bon moment. Et si on est capable de faire ça, alors effectivement, on peut dire « j'ai fait l'acquisition d'une mida ». Donc retenez juste cette leçon-là, que les midot dont on parle tant dans la Torah et dans les livres, que les midot, ce n'est pas la nature de l'être humain. Les midotes, c'est quelque chose dont je dois faire l'acquisition, sur lequel je dois m'investir pour les travailler, pour les acquérir, pour m'affiner et affiner ces traits de caractère-là. Et une fois qu'ils sont bien affinés, j'en fais l'acquisition, bien évidemment, ça devient une part de moi-même, c'est sûr. Mais il y a toujours des exceptions. Et c'est grâce aux exceptions que je montrerai que je maîtrise l'amida en question. Dans l'éducation, c'est pareil. On doit être souple avec ses enfants, etc., etc. Mais nos chachamim nous disent, mais il y a des moments où, au contraire, il faut être dur. Bah, quand tu vois qu'ils vont trop loin, quand tu vois qu'ils dépassent les bornes, quand tu vois qu'ils sont en train de faire une catastrophe, tu ne peux pas dire, allez, c'est pas grave. C'est pas possible. Tu vas dire, ah non, mais on m'a dit que dans l'éducation, il faut être souple. Non, non, non. Tu dois te poser la question, maintenant, comment je dois réagir? Maintenant. Donc, si tu vois que là, il y a un danger imminent, tu dois montrer qu'il y a un problème. Donc, tu dois avoir une réaction forte. Le reste du temps, tu es souple, il n'y a aucun problème. Mais c'est justement quand ton fils, ta fille, voit qu'il y a des moments où tu es sévère, qu'ils comprennent que le reste du temps, c'est une mida qui est travaillée lorsque tu es souple avec eux. Voilà ce qu'on appelle la véritable définition des midotes présentées par les Chachamim. Question, Laurent ?
Sèchement, c'est pas pour ça qu'on travaille. Je vous vois lève tout souvent, et quand une fois vous avez pas haussé le ton, juste dit des choses, c'est comme ça. Là, vous êtes pas énervé, non.
Razak, mais c'est exactement pareil. Avram, il s'est pas énervé.
Non, vous êtes pas énervé, mais vous avez juste.
C'est ça. Ça veut dire que Avram, Razak, là aussi, Avram regarde le texte, hein. Il s'est pas du tout énervé, mais il a parlé sèchement. Tac, on rigole pas, on plaisante pas. Ça veut dire, exactement, Razak, ça veut dire que l'autre qui est en face, il se dit, oh là, c'est bon, il y a un mur, on passe pas. D'accord ? Ah ouais, mais attends, mais d'habitude, Avraham, on a toujours entendu parler qu'Avraham, il est sympathique, tout le monde lui marche dessus, il n'y a aucun problème, il réagit pas, au contraire, il est très sympa. D'accord ? On nous dit, bah oui, justement, quand il y a les moments où il faut répondre, Avraham, il le fait, sans se mettre en colère. Parce que ici, la mida, ici, c'est anava ou le fait de s'imposer. Parce que souvent, effectivement, la anava, c'est le fait de s'imposer. D'accord ? C'est pas le calme ou la colère. D'accord ? C'est la anava ou la, ce qu'on appelle en hébreu, la anochiut. Anochiut. Ça vient du mot anochi. D'accord ? C'est l'ego, tout simplement. L'ego qui s'impose. D'accord ? Et donc, c'est ça, en fait, qu'on veut, qu'on apprend à travers cet épisode-là. C'est que selon le contexte, en fait, Avraham n'a pas nécessairement le même comportement. Et que c'est grâce à ça que tu analyses la plupart du temps où il a un comportement calme, d'accord, que tu te dis, ah ouais, ben tu vois, c'est un truc qui est travaillé. Avraham, il se travaille. Ce n'est pas sa nature, c'est un travail. D'accord ? Et c'est plus grand que de dire que c'est sa nature. C'est plus grand que de dire que c'est sa nature. Ouais, ça va un peu dans ce sens, t'as raison. T'as raison, ça rejoint un peu cette idée-là. Chazak ou Baruch. Gmara.